assez directionnel, ça marche pas si mal. Bon, en même temps, le son chez Bill Viola, c'est pas non plus l'éclate, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, c'est bien, hein, ça va. Il cherche un truc pseudo-immersif comme ça, enfin. Très. Les vidéastes, ils cherchent beaucoup à immerger, hein, par le son. Ça tient sûrement au médium, en fait, dont l'histoire est plus ancienne que le cinéma, même si la technologie est pas mal. Et d'ailleurs, il est très proche de Parreno, qui fait la même chose, hein. Je pense que vous avez vu l'expo au Palais de Tokyo aussi. Parreno aussi, qui avait transformé le Palais de Tokyo. C'est rarement transformé, le Palais de Tokyo, mais il l'avait vraiment transformé en une sorte de gigantesque boîte à musique autour, comme Henri Salla. Je sais pas pourquoi ils s'intéressent tous à Tchaïkovski. Là, c'était Petrouchka, donc Petrouchka, c'est la poupée mécanique, etc. Donc pareil, piano mécanique. Ça, c'était plutôt très réussi. Christian Marclay, éventuellement, on peut parler de lui. Lui, il fait un drôle de truc. C'est-à-dire au fond, puisque l'image produit du son, on garde l'image, quoi. L'image, elle est là comme enveloppe, mais son discours, il reste musical. Tout le temps, enfin, j'ai pas d'exemple d'installation que ce serait l'inverse. Par exemple, c'est comment c'est la guitare qui est traînée, ça s'appelle comment? Guitare riff? Pardon? Voilà, drag guitare. Au fond, peu importe l'image aussi, elle a pas d'assiette, pas de truc, peu importe, c'est. Mais on la suit, quoi. On suit le truc implacablement. Crossfire, vous voyez? Ça avait été montré à la Cité de la Musique, à la Villette. Donc en fait, c'est une installation en croix avec quatre écrans. C'est une sorte de fusillade. Donc, comme spectateur, on est pris vraiment au centre de l'installation. Puis on voit des gens sortir des armes de tout calibre. Les armées, etc. Donc on a le son des cloches, etc. Et puis tout à coup se tirer dessus. Donc me tirer dessus. Bon, ça c'est assez efficace. Hein. C'est quelqu'un d'efficace, Marclay. Suisse aussi, comme Godard. Voilà. Christian Marclay, il est suisse, non? Ah oui? Ah, d'accord. Voilà, Vidéo Quartet aussi, qui pour le coup était un vrai travail virtuose entre ces quatre vidéos. Vraiment que le son arrive à jouer depuis les quatre écrans en influence sur les autres écrans, ça c'était hyper habile. Tu es une spécialiste de Marclay, je sens, non? T'es très fan? Ouais. Dessus? D'accord. Ouais. Vous avez eu Clock? Non, c'est à Beaubourg en ce moment. C'est son horloge perpétuelle. Ouais, de 24 heures, mais comme elle tourne en boucle. Donc avec des extraits de films où à chaque fois, ça nous donne la bonne heure, quoi, celle du temps réel. Je l'ai pas vu. Tu as vu, non? En fait, la diffusion, c'est celle d'une salle de cinéma classique, non? D'accord. D'accord. Ah ouais? Montre en main? Ouais. D'accord. D'accord. Ouais.
Je crois qu'il y a 200 personnes qui vont bosser sur les roches, qui sont les génériques.
Oui, après, il faut des assistants derrière pour aller cueillir.
200 personnes. Ceci dit, ce qui est étonnant, c'est effectivement les plans qui durent maximum 20 secondes. C'est moins, mais c'est la durée maximum. Sachant que le film, on s'apprend du début du siècle à aujourd'hui. Et le mixage sonore, il y a une continuité hallucinante.
D'accord.
même si c'est le son direct de chaque film. Et tu cherches à voir ce qui va se passer à la suite. Alors, il n'y a pas d'histoire, du coup.
Du coup, tu imagines, c'est comment les sons ils se tuilent ou...
Très légèrement, sûrement.
Parce que j'ai vu, tu as des films des années 50, des films des années 30, des films très récents.
Et comment il a réussi à avoir une cohérence comme ça?
Ouais, il faut mixer quand même après.
Oui, mais c'est, voilà, c'est le truc, c'est la neuvième.
À propos des horloges ou des montres, enfin, j'y pense parce qu'on parle de cloque de Christian Martin, et qu'on voyait l'horloge cassée là dans L'homme invisible. Il y a un petit bouquin qui doit avoir une dizaine d'années maintenant, de Tiphaine Samoyo, qui s'appelle La montre cassée, et elle repère beaucoup d'occurrences en littérature et en cinéma du moment où les montres ou les horloges se cassent. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un motif littéraire mais cinématographique très fort, quoi. On casse le temps, ça se casse tout le temps, quoi. Vraiment. Je vais vous montrer alors trois extraits, puis après on va discuter comme ça. C'est une collaboration avec un anthropologue. Je travaille beaucoup avec un groupe d'anthropologues qui s'appelle l'ArtMap, qui a associé des artistes à leur travail. Je les ai rencontrés deux fois avant qu'on travaille vraiment ensemble. Une fois, j'étais venu parler d'un tableau qui avait saigné, voilà, lors d'un workshop avec eux sur les effets de l'image, d'un tableau qui avait saigné à côté d'Apt, à Saint-Saturnin-les-Aptes. C'est un tableau qui avait saigné fin 19e. Il y avait eu un envoyé du Vatican qui avait conclu que c'était un pseudo-miracle, mais qu'il y avait quand même sang, etc. Donc toute une histoire, et en fait c'était surtout l'histoire de sa restauration. Et puis une autre fois, ils m'ont réinvité pour parler des feux d'artifice, parce qu'il se trouve que je fabrique les feux d'artifice aussi. Enfin, je ne fabrique pas les trucs, mais je les mets en place. Et d'ailleurs, ça pose aussi des rapports avec le son assez compliqués. Donc, il y a les feux musicaux. Bon, ça c'est assez simple. On envoie la sauce, on envoie la musique à fond. Michel Sardou, tout ça. Enfin, vous voyez, pour les 14 juillet. Et il y a plus intéressant les feux secs que certains tentent de musicaliser. Et notamment, l'industrie du feu d'artifice, elle fabrique de plus en plus d'éléments d'artifice pour leur effet sonore. Donc on a des crépitants, des frétillants, des voilà, toutes sortes de choses, des soucoupes stationnaires, ça, ils travaillent beaucoup sur des feux sifflants, des choses comme ça. Et en fait c'est assez simple parce que si c'est des fusées ou même si c'est des bombes, avant qu'elles éclatent, elles ont une trajectoire, ce qu'on appelle une montée d'espolette, et il suffit qu'elles soient percées, qu'elles créent un effet de sifflet, quoi. Au fond, les Allemands connaissaient bien ça avec les Stuka, qui arrivait en rase-motte et qui sifflait très très fort. Sur les ailes, il y avait des sifflets, quoi. Donc ça terrorisait les gens avant de les bombarder. Un double effet, quoi. Donc ces anthropologues, ils travaillent sur les milieux visuels. Donc il y a toutes sortes de gens. Il y a des américanistes, il y a des africanistes, et il y a des indianistes. Mais je dirais qu'ils partent de leur terrain d'élection à partir duquel ils travaillent, mais pour aller vers des objets très bizarres. Aujourd'hui, c'est plus sur des objets robotiques qu'on travaille, voilà. Surtout eux. Et moi, je les accompagne pour des films. Donc, avec eux, j'ai travaillé à Ce qu'on va voir, qui est un film qui s'appelle Cosmic City, qui a été édité en DVD, en fait, pour être vendu avec un bouquin du même nom, Cosmic City, sur des plateformes rituelles en Inde. Voilà, donc c'est un travail scientifique qu'ils font, attention. Donc on est dans un contexte scientifique, c'est des fonds du CNRS, tout ça. Ce qui nous laisse toute liberté après, plastiquement, pour travailler leurs films. Voilà, puisque c'est pas censé être des films ni pédagogiques ni informatifs. C'est des films ethnographiques dont on a, vous allez voir, un peu élargi la dimension. Alors celui-là, on va voir trois extraits, hein, trois moments. C'est un film qui dure une heure à peu près, où il y a peu de paroles aussi. On est à Bombay, on est au moment du festival de Ganesh qui se tient fin août, début septembre chaque année, Et en fait, en Inde, il y a eu un, en tout cas à Bombay sur ce festival, il y a eu un petit recul de la religiosité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'allaient plus tant au temple, le festival était moins accompagné par la population. Donc ils ont réfléchi, et puis petit à petit, depuis 10 ans, 10-15 ans, se sont mises en place des plateformes rituelles avec des automates. Donc c'est des dieux automatisés. Généralement, ils sont faits en fibre de verre, ils peuvent être faits en carton. C'est vraiment, on est sur du low-tech, hein, c'est très bricolé. Il y a beaucoup d'effets. Une des spécificités de l'univers indien, c'est d'être proliférant, comme ça, presque baroque, avec des lumières, des motifs, des trucs. Enfin, vraiment, ça brasse beaucoup visuellement. Il y a une imagerie. Voilà. C'est un pays où l'imagerie est beaucoup plus forte que celle qu'on connaît en Occident, religieuse ou pas d'ailleurs. Et leur, je dirais que leur religion, leur mythologie, l'hindouiste, il est là au quotidien sur toutes sortes d'images qui sont absolument partout, dans les films, à la télévision, les comédies musicales, les espèces de soap-opéra, il y a toujours Vishnu qui débarque à un moment, etc. Voilà, donc pour nous, c'est des objets visuels très étranges, mais le travail de ces gens qui automatisent les dieux consiste à les ralentir au maximum avec l'idée que ce ralenti permet de voir la divinité qui est dans une autre vitesse que nous, humains, qui sommes à nos petites affaires et qui galopons. Alors l'anthropologue avec qui je travaille s'appelle Emmanuel Grimaud. Lui, il est allé filmer là-bas, mais je dis ça sans malice, il a filmé comme un anthropologue, c'est-à-dire pas du tout avec les mêmes critères que nous, cinéastes ou artistes, donc avec des séquences coupées au moment où il commence à se passer quelque chose, des cadres un peu flottants, une caméra un peu mouvante, une prise de son synchrone du micro de la caméra, donc des choses difficilement exploitables, et on avait à peu près 50 heures de rush. Donc un rapport 1 pour 50, ce qui est beaucoup trop. Hein. Moi, je suis pour travailler sur des rapports de 1 pour 7, grand maximum, et plutôt 1 pour 3, idéalement. Donc on s'est retrouvé avec cette matière-là, qui était assez fascinante, et moi qui... Personne ne voulait le monter, ce truc. Et moi, ça m'a intéressé, parce que tout à coup, je me suis dit, c'est des images qui ont peu de valeur, qui sont un peu cheap, qui sont en grande quantité, et du coup, je me suis dit, c'est une sorte de pâte d'image. Voilà. Et il nous manquait une patte de son, voilà, qu'il a fallu fabriquer à partir de bribes de choses enregistrées avec la caméra, de choses qu'on a refabriquées derrière. Et notamment, alors, le premier que je vais vous montrer, là, j'avais je devais avoir 30 secondes d'une musique rituel joué sur la plateforme, donc il a fallu rebidouiller, refabriquer à coups de micro-gestes dans Pro Tools, etc., pour recréer des fréquences. Je vous propose de regarder ça. revois légèrement à la fin le, pardon, le charme au père, puisque les gens prient devant. Hein, c'est des endroits où on va prier. Hein, c'est, voilà, alors on a dû des fois s'expliquer de ça. En fait, c'est pas du tout un travail ironique. Hein, c'est-à-dire, enfin, c'est un travail documentaire, tout simplement. Pour montrer le soin, en fait, la préparation qu'ils ont auprès de leurs automates, et aussi, c'est une équation hein, toujours de faire un film, et aussi la raréfaction du matériau, c'est-à-dire qu'on a des mouvements, enfin voilà, les mouvements n'étaient pas filmés jusqu'au bout, je les ai joués dans des allées, on les a joués dans des allées, dans des retours, etc., des renversements, des inversions. Voilà, ce qu'en son temps a fait quelqu'un comme Pélechian, vous voyez, Artavas Pélechian, cinéaste arménien, qu'on a découvert, je ne sais pas, dans les années, début des années 90 en France, qui lui avait un peu théorisé ce qu'il appelait le montage à contrepoint. Voilà, où il y a des choses qu'il a filmées, mais c'est plutôt un cinéaste qui travaille avec du found footage, mais des très beaux documents tournés par des opérateurs russes dans son Arménie natale. Voilà, donc film de transhumance de moutons. Vous voyez un Pélechian en personne ? Oui, forcément. Oui, tu vois. C'est P-E-L-E-C-H-I-A-N. Je vous recommande hein, de voir ça. C'est des films assez courts. Qui sont intéressants dans leur rapport au son parce qu'il y a une dimension opératique comme ça. Donc c'est toujours une. La musique lui permet de monter à une dimension un peu cosmique, comme ça, très universelle. C'est encore des films soviétiques dans leur mode de pensée, même si on est aux confins de l'Union soviétique qui est déjà terminée. Je vous propose deux autres extraits. Donc là, on va voir Ganesh. Auparavant, le personnage barbu que vous avez vu, c'est un saint local, mais qui a colonisé certaines régions de l'Inde, qui s'appelle Sai Baba. Voilà, et donc on danse pour lui. Et Sai Baba fait surgir la fontaine à la fin. Et puis la montagne s'ouvre, etc. Grand renfort de fumigène, de stroboscope, de choses comme ça. Là, c'est des séquences qui sont entre fabrication et plateforme et spectacle de la plateforme rituelle. Il y a des moments, enfin, il avait passé beaucoup de temps avec eux dans l'atelier, donc on a des moments aussi de pur atelier, de pure fabrication, mais qui sont un peu moins intéressants. Du coup, je vous montre cela. Voilà, donc ça, c'est... En fait, le montage qui... image qui passe beaucoup par des flickers, des choses comme ça, des choses vraiment micro-montées au photogramme près, reprend le principe même de ces plateformes. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'y suis pas allé. Hein. La description qu'en faisait cet anthropologue, c'est que c'est totalement immersif, on ne sait pas du tout où donner de la tête, etc. Et on a un bombardement de photons et de sons différents. Il se trouve que pour ces images, le son était... Il n'y avait pas de son, quoi. Enfin, il y avait un truc qui ressemblait à rien. Du coup, le parti et les images nous intéressaient beaucoup. Il n'y a rien de... Dans ce film-là, aucune image n'est fabriquée. Hein. C'est-à-dire que même les formes géométriques qu'on voit se déplacer, c'est des choses qui sont projetées soit sur les personnages, etc. C'est des découpes lumineuses en mouvement. Le parti pris qu'on a pris, c'est de refaire complètement le son. Et puisque il y a une grande complexité électrique aussi, surtout quand on connaît quand on sait comment est l'électricité en Inde, c'est toujours un truc un peu aléatoire. Vous connaissez l'Inde, non? Certains y sont allés, oui. Voilà, bon, visiblement, c'est assez... Ça bug souvent. On s'est dit que c'était marrant de repartir du signal électrique, tout simplement. Donc ça, c'est deux jacks que je joue comme ça sur une table à effet, tout simplement. Peut-être une dernière chose. C'est la fin du festival, ça. Donc on est sur la baie de Bombay et on emmène les statues à la mer. On va les immerger, voilà, on va les faire rentrer dans l'eau. Donc il se trouve que la baie de Bombay est pleine de ces sculptures-là. C'est-à-dire que quand on s'y baigne, on tombe sur des plâtres plus ou moins mous avec des têtes de Ganesh, de Kalimata. Voilà. Voilà, ça c'est une... un moment de la mythologie hindouiste qui s'appelle le barattage de l'océan de lait. Voilà, donc, c'est-à-dire Krishna manipule les éléments, etc. Et puis baratte, comme on fabrique du beurre, l'océan de lait qui fait surgir les êtres, etc. Donc il y a peu de manipulation d'images, hein, sinon il y a une surimpression, enfin des images qui sont rajoutées généralement sur la partie supérieure au-dessus de la foule. Les Indiens à qui ça a été montré ont dit que c'était ce qui se passait pour eux quand ils allaient mettre les. Voilà, donc en fait, d'un coup, ça devient un écran de projection fantasmatique. Et tous ces films, on a épluché quelques. Enfin, Emmanuel Grimaud avait beaucoup de films indiens comme ça, avec des séquences où apparaît Krishna. Donc c'est à chaque fois Krishna qui apparaît, enfant dans l'océan, il surgit, etc. Puis vieillit, puis il y a sa danse, etc. Et toutes ces images assez surprenantes appartiennent vraiment à la cinématographie indienne. On n'a touché absolument à rien. Je tiens à dire qu'on manipule assez peu les images. Voilà, on a récupéré du son de ces films et puis d'autres choses plus cheap qui viennent de banques de sons diverses et variées. Voilà, voilà en gros un film avec peu de son, voilà, peu de moyens, peu de son. Alors ce film, il est devenu deux choses. D'abord, il a été montré en installation, voilà, en plusieurs écrans. Il a été déployé sur plusieurs écrans parce qu'il y a, dans mon souvenir, une dizaine de séquences. Et puis après, ça en a fait un film, et ça reste quand même un objet un peu limite, un petit peu, voilà, une heure devant ce film. Bon. Là, faut... Moi, je n'ai aucune passion pour l'imagerie indienne. Hein. Tiens, bien, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'étais la bonne personne pour travailler ça. C'est-à-dire que je n'avais pas de, je prenais les informations qu'on me donnait, mais je n'avais pas du tout d'empathie avec ces images. Voilà. Et c'est plus facile pour travailler d'ailleurs que quand on fabrique ses propres images. Voilà, mais j'arrive un peu au bout de ce que j'avais à vous dire, mais on peut discuter un peu. On se voit demain, ça c'est sûr, je crois, hein, autour de votre travail. On me réjouit. Je sais pas, il y a peut-être des points que j'ai pas abordés ou survolés ou je sais pas si.
Tu travailles énormément autour d'une dimension musicale.
Oui. Ouais.
Tu peux.
Ouais. Oui. Ah oui, alors je peux développer. Moi, en fait, parallèlement au Beaux-Arts, j'ai fait le conservatoire en musique, donc avec une pratique du hautbois, voilà, et plutôt de la musique baroque. Et en même temps sur du répertoire contemporain aussi, parce qu'il y a beaucoup de répertoire contemporain pour le hautbois. Je suis très entouré de musiciens, mais vraiment hyper entouré de musiciens, donc notamment de compositeurs, avec lesquels je travaille pas mal aussi. Je filme souvent des musiciens, voilà, donc avec tous les problèmes que ça peut poser de prise de son, de cadre, etc. Et en même temps, c'est mieux que de filmer des acteurs, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de vouloir dire, quoi. Ils jouent leur texte, quoi. Ça c'est très agréable. C'est comme avec les danseurs. J'aime pas beaucoup les acteurs, hein. Enfin les faux, j'ai travaillé avec des acteurs, je trouve ça compliqué. Et du coup, oui, qu'est-ce que je peux dire, enfin, alors j'ai travaillé avec un compositeur, là on a fait un conte musical autour de Spinoza et d'un conte soufi. Qui a été donné en Suisse deux fois, qui a été acheté en fait par un ensemble de musique contemporaine qui s'appelle Binoculaire, l'ensemble Binoculaire. Et Binoculaire, c'est l'anagramme de Luciano Berio. Voilà, donc ils ont surtout joué du Berio, mais voilà. Ce compositeur s'appelle Frédéric Patard, il fait des choses très belles. Enfin, il y a un disque qui existe, et puis il est joué de temps en temps, il est joué au festival d'automne tous les 2-3 ans. On a travaillé ensemble. Alors ça, c'était une autre expérience, c'est-à-dire que pour le coup, je m'occupais peu du son. Il s'agissait de faire des images, mais à la mesure près, enfin au temps près, avec des 12-8, des trucs, enfin des mesures pas possibles. Donc ça, c'était intéressant parce que moi, je me disais, tiens, comment transformer ça en unité d'image, voilà. Et puis, c'était aussi son vœu. Et je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que je ne l'ai pas là de toute façon, mais c'est des images qui sont faites pour la scène, pour être à côté de musiciens. Donc, les musiciens jouent et font le conte et il y a un narrateur à l'écran qui joue aussi tous les rôles. Voilà, c'est un peu compliqué comme dispositif. Donc, il est grimé, etc. C'est un enfant. Voilà, il y a des séquences très abstraites. Il y a aussi un peu un jeu avec les textes, les titres. Voilà, donc ça, le travail était intéressant parce qu'il s'agissait de prendre la partition et de se dire qu'est-ce qu'on met là-dessus. Donc, la partition, il y a des parties chantées, il y a des parties parlées. Donc, voilà, ça, c'était un travail important. Et il peut m'arriver de composer de la musique aussi pour des films. Pour des films, c'est-à-dire que je fais des musiques de films, mais pas plus, je ne suis pas compositeur, parce que je sais à quel point le travail d'un compositeur est différent de celui qui fait des musiques de films, qu'on peut appeler compositeur aussi. Et entre autres, j'ai fait plusieurs musiques de films d'Éric Bulot, voilà, qui enseigne ici aussi, que vous avez peut-être croisé déjà, furtivement. Voilà. Donc on se connaît très bien avec Eric. Moi j'ai été conseiller musical sur certains de ses films parce qu'il a travaillé beaucoup sur les rapports musique et image. Il y a maintenant longtemps, on avait tourné un film dans la chapelle qui s'appelait Le singe de la lumière, sur une hypothèse d'un jésuite allemand qui était parti faire ses recherches en Italie, qui s'appelle Athanas Kircher. Athanas Kircher, c'est un grand savant, tentative de déchiffrage des hiéroglyphes, etc. Et puis des écrits sur le son, sur la lumière, et il passe pour l'inventeur de la projection. Donc une sorte de savant mage, un peu comme il y en a encore à la Renaissance, enfin à l'âge baroque plutôt, puis après il n'y en aura plus avec le règne de la raison. Et donc une de ses phrases, je crois tirée de son traité d'acoustique, c'est « le son est le singe de la lumière ». Donc ça c'est une phrase qui parle très fort, quoi, particulièrement aujourd'hui sur les rapports image et son. J'étais venu faire conseiller musical, c'est-à-dire qu'on avait choisi un instrumentarium avec des choses bizarres comme un harmonica de verre, des choses comme ça. On avait fait venir un clavecin d'assez loin, on avait un cymbalum, on avait demandé à un compositeur d'écrire une partie. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'expériences avec le son, mais le film doit être à la bibliothèque. Ouais. Voilà, des expériences avec le Nagra aussi. On avait encore moi je travaillais à la radio à l'époque, donc j'avais du Nagra à bande, tout simplement. Ça, et puis j'ai fait d'autres films. Alors, les choses que je lui écris, en fait, c'est du matériau, quoi. C'est-à-dire que je fais des moments musicaux entre la ponctuation, quoi, presque le jingle radio, un truc qui va pouvoir ponctuer comme ça les images, ou des choses un peu plus écrites, un peu plus élaborées, qui peuvent aller jusqu'à 2-3 minutes. Voilà, et je veille à ce qu'il puisse couper dedans, faire ce qu'il veut avec, que ce soit un matériau pour lui, que ce soit pas faut que je me paye la pièce du compositeur là en entier. Voilà, il n'y a que Bernard Herrmann qui peut faire ça aussi. Et encore. Mais c'est pas mal l'idée de composer un film, en fait, même si après je m'y enfin dans les choses que je prépare là. Composer un film, tout est écrit à l'avance et je m'y tiens. C'est à dire que, enfin, par exemple, les trois petits films que vous avez vus, il y avait une partition. En fait, j'aurais pu vous montrer ça. En fait, ce que je fais, c'est que c'est ce que je conseille ici aussi aux étudiants. Je travaille au mur ou sur une table chez moi, je déroule un truc, je trace une ligne temporelle. Donc, si je suis parti sur un film de 12 minutes à peu près, le truc que j'ai rêvé faire, je me trompe rarement au niveau des durées, je me dis, tiens, c'est 12 minutes, je trace ma ligne de 12 minutes, je la séquence toutes les 10 secondes. Et puis, ça peut être un geste pour commencer, je me dis, tiens, il faut que ça commence, il faut que je les saisisse. Donc, voilà, il y a une flèche vers le haut qui part. Et puis après, j'ai mes envies sur des papiers découpés. Donc je sais pas, c'est très con, hein. C'est pas très stupide. Je me dis, j'ai envie de filmer un chien, ou je sais pas, j'ai pas de scénario. Enfin, ou si des fois il peut y avoir un texte que je découpe et je mets des morceaux de texte à différents endroits. Mais après, je découpe des images, soit que j'ai fait des photos, hein, ou soit que je récupère, même dans des journaux, n'importe où. Et puis, je fais une sorte de collage, mais qui est lisible que par moi dans un premier temps. Et puis après, alors, des fois, je complexifie, il y a une piste, il y a toujours une piste image, une piste son. Voilà, et j'essaye de voir ce qui va se passer entre temps, entre les deux, des choses des fois qui s'opposent. Donc, c'est très visuel, je sais que ça va s'opposer, que ça va se dérouler comme ça. Et moi, je me fais le film dans ma tête en l'ayant devant les yeux. Des fois, je me dis, tiens, ça va pas, donc je déplace, je décolle et je mets ailleurs. Et je peux faire, dans les trucs les plus compliqués, je fais une piste couleur, une piste lumière aussi, pour savoir un peu les tonalités, ce que j'ai envie. Et après, ça peut faire un document de travail si je travaille avec des gens. Voilà, un truc que j'échange, que j'explique. Voilà. Ce truc-là, je l'ai. Alors, c'est ça qu'on posait le film. Donc, pour les trois petits films, ça, je m'y suis tenu. C'est-à-dire que tous les quatre, tout était dessiné. Il n'y avait pas de photo, mais tout était dessiné. Je connaissais le violoncelliste, le truc. Enfin, quand même, dès que j'ai trouvé les bouchers, que j'ai eu l'idée, ça s'est écrit vite. Pour les chats, c'était pas aussi écrit, mais je savais ce que je voulais en valeur de cadre. Et pour le premier, c'était évident, puisque bon, c'était une journée de travail. Il fallait pas lâcher l'huître et le homard, quoi, qui ne sentent pas bon sous les projecteurs. Voilà, ça c'est... Bon, mais comme je ne suis pas un ayatollah de ça, en fait, j'ai ce truc qui est composé et ça sert de base de travail. Et après, au montage, je suis pragmatique. Si ça ne marche pas, je casse. Enfin, voilà. En fait, je pense que dans ces trucs-là, il ne faut pas avoir trop de principes. Il faut penser à ce qui va se passer après pour celui qui va le regarder, comment ça se reçoit, quoi.
Est-ce que ça confirme ce que tu disais, finalement? Donc, la méthode de travail est très proche de l'écriture.
Oui. Et en même temps, ce spectacle-là qui s'appelle Poulpe et Diatomée, donc c'est vraiment du live, il se passe autre chose, c'est-à-dire qu'au fond, c'est composé parce qu'on a notre ordre de film, on sait comment ça va se dérouler, mais c'est une écoute permanente de l'autre, en fait, on ne joue pas notre partition, là. Voilà, pas sur le même registre. C'est une écriture aussi, mais c'est pas le même registre d'écriture. Après, ce que j'ai fait en radio aussi, c'est construit au millimètre. Je sais ce que je vais faire, et même si j'ai un interlocuteur, que c'est un plateau, qu'on est sur du direct, j'ai l'œil sur l'horloge et je sais à quel moment on retombe sur nos pattes. Voilà. J'aime bien clore les émissions, je trouve toujours le tac, le truc. Le dernier mot. Mais bon, il y a plein de... Il y a 15 000 façons de faire. Enfin, en fait, le champ est très, 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 très ouvert, quoi.